Bienvenue à ce nouvel épisode de Litteramour. Il est dédié à l'écrivaine Maïlys de Kerangal qui a débuté en 2000 avec Je marche sous un ciel de traîne et qui aujourd'hui est largement connue en France et à l'étranger. Son œuvre a été couronnée par des prix littéraires prestigieux et son livre à succès international, Réparer les vivants, filmé par Katell Kijevere. La manière dont l'écrivaine relie son goût pour la fiction avec son intérêt pour le documentaire me paraît unique dans la littérature française. Lire ses livres, c'est élargir activement son propre vocabulaire. Son intérêt pour les métiers, les arts, les sciences et l'histoire est manifeste et son savoir énorme. Elle détecte et décrit des liaisons entre les disciplines, elle les lie à notre quotidien. Sa langue littéraire suscite des pensées, elle traque des désirs secrets et des vérités cachées. Elle tisse des liens invisibles. Dans son livre « Canoë », l'auteur explore le potentiel de la voix humaine, le timbre individuel et l'effet que les fréquences vocales produisent, le cri, le bêlement, l'aliénation qu'un environnement étranger peut créer dans la vie d'un couple. Le 4 juin 2024, Maïlys de Kerangal a été l'invitée d'Ulrike Schneider, professeure au département des lettres romanes de la Freie Universität Berlin, avec l'assistance de Marie Jacquier, coordinatrice scientifique au Frankreich-Zentrum. J'ai animé la conversation avec Maïlys de Kerangal au sujet des 8 récits qui forment le livre « Canoë ». Au tout début, je lui ai demandé comment ce recueil s'est formé. Elle avait écrit pendant la pandémie de Covid.
Quand le confinement s'est déclaré à la mi-mars 2020, j'avais un autre projet qui était plus un projet de roman. Et c'est vrai que les choses se sont pour moi interrompues au sens où il n'était plus possible de continuer comme si de rien n'était à faire son livre. Et il y a eu une forme de dislocation. Et de cette dislocation, j'ai essayé de faire une composition, en fait, hein, de sortir justement d'un matériau disloqué et de le réactiver pour qu'il devienne cette espèce de roman en pièces détachées. La voix était le motif qui était le motif principal, la voix humaine. D'abord parce que c'est vrai que la voix humaine, c'est d'abord un organe, de petits plis vocaux au fond du larynx. Et j'aimais beaucoup la saisir sous l'angle musculaire et c'est surtout la façon dont l'air insufflé par les poumons vient faire vibrer ces cordes. Or, la pandémie, c'était déjà une maladie qui touchait, ce virus touchait la respiration. On avait du mal à respirer, donc notre souffle était modifié, la voix était modifiée par ce virus. Et puis, effectivement, il y a eu le masque il se passait quelque chose au niveau de la mâchoire qui était élastiquée. Il y avait une forme de bâillon et pas forcément un parasitage de la voix, mais les choses, en tout cas, n'étaient plus semblables. Et puis, enfin, moi, j'ai vécu cette période séparée de personnes importantes. Et donc, il y a eu énormément de coups de téléphone. J'ai eu le sentiment d'être énormément au téléphone et que donc les corps que l'on ne pouvait plus toucher se présentaient vraiment sous la forme de la voix. Et la voix, c'est quand même l'organe de l'incarnation. La voix, c'est immédiatement du corps. Et j'ai eu envie à ce moment-là d'écrire ce livre avec au centre une novella, c'est-à-dire un texte qui fait plutôt presque, je sais pas, 60 feuillets. Donc c'est un texte, je crois, qui fait la moitié du livre à peu près, et où je raconte finalement un séjour aux États-Unis au cours duquel j'ai écrit mon premier livre. Alors évidemment, comme c'est pas possible, enfin ça m'était pas possible de raconter comment à un moment donné je commence à écrire mon premier roman, j'arrivais pas à le raconter. C'est vrai que je raconte comment j'ai passé mon permis de conduire, mais au fond c'est un peu pareil en fait en ce qui me concerne. Et puis voilà, il y a c'est l'apprentissage de l'autonomie, de la solitude et d'une forme de liberté. de l'autonomie, parce que la jeune femme qui raconte cette nouvelle qui s'appelle Mustang s'est détachée. Elle est partie vivre loin de ses bases dans un pays dont elle maîtrise assez mal la langue, donc elle est un peu comme une espèce de monade un peu détachée de son environnement. Et autour, il y a sept nouvelles. J'ai essayé de replacer un peu dans ces sept nouvelles, ça forme un peu comme une espèce de constellation, des histoires de voix qui changent, de voix fragilisées, de voix qui s'émancipent, de voix secrètes, et de voix aussi qui pourraient dire possiblement la présence de la mort. Il y a deux nouvelles qui sont très liées à la présence de la mort. Alors c'est aussi parce que... c'est une période qui a été quand même marquée par la recrudescence, en tout cas, d'une mort qui était évacuée des espaces publics, masquée, etc., mais que l'on sentait fortement présent. Donc, c'est un livre qui raconte ça et par le biais de textes qui sont écrits à la première personne du singulier et qui sont des jeux féminins. J'avais envie aussi de rassembler une tribu de femmes, en fait, hein, et de les montrer un peu dans des états différents qui ne sont pas les états de la puissance, mais qui sont les états, au contraire, d'une humanité vulnérable, fragilisée. Voilà.
Puisque vous avez mentionné le texte « Un oiseau léger », il est question de la mort, enfin de la mort de la mère d'une jeune femme qui est avec son père. Et le père, il n'arrive pas à éliminer, à éteindre la voix de sa femme sur le répondeur. Enfin, lui est le sens qui s'éteint le dernier. Mais il existe aussi une mémoire prénatale qui nous relie à la mère, à sa voix, qui crée un lien indissoluble, et cela est très très bien illustré dans ce récit Un oiseau léger, la femme qui exige de son père qu'il finalement va être capable d'effacer la voix, parce qu'elle porte cette voix en elle, elle l'a toujours entendue depuis toujours.
Ouais. Mais c'est vrai que la voix des morts, et c'est quelque chose de très troublant d'entendre la voix des morts. Je sais pas, c'est arrivé à des gens ici d'écouter sur des répondeurs téléphoniques, mais voire même au cinéma ou à la radio, voilà, des voix de personnes qui sont mortes. Et de fait, pour moi en tout cas, la voix humaine est tellement un organe de l'incarnation, c'est-à-dire de la vie au contraire, que je trouve qu'il y a une espèce de... Le temps se détruit, se déconstruit, en tout cas ça défait le temps. Hein. Tout d'un coup, l'irruption de la voix des morts dans le monde des vivants, ça nous trouble. Dans cette histoire-là, c'est vrai que le père ne parvient pas à effacer la voix de sa femme sur le répondeur. Pour sa fille, c'est une forme de violence parce qu'elle estime qu'ils ne peuvent pas faire leur chemin avec ce décès. Et elle dit même à son père qu'il est fou, que ça fait 5 ans que cette femme est morte et qu'il faut maintenant effacer sa voix. Ce qui était important pour moi, c'était de dire aussi que la voix des personnes que j'ai aimées et qui sont mortes, tant que je l'ai dans l'oreille, pour moi, la mort n'était pas accomplie d'une certaine manière. Vous voyez, pour moi, c'est quand on perd la voix de la personne qui est morte, quand sa voix s'éteint, quand on ne la retrouve plus, alors là, il y a vraiment quelque chose qui est parti. C'est un organe vraiment très puissant, parce que la voix humaine, pour moi, c'est aussi la singularité de l'individu. On se reconnaît tous, les yeux fermés, par la voix que l'on a. Il faut bien se... réfléchir à cette situation où vous êtes seul chez vous, le téléphone sonne, on décroche, et allô, et immédiatement, la personne se réimpose. Et Proust, d'ailleurs, le dit très bien du côté de chez Swann. Il parle d'un coup de téléphone et la voix incarne totalement la personne comme si elle était en image devant lui. Et c'est vraiment très troublant le fait qu'on puisse identifier les gens, les êtres, par leur voix, plus presque que par leur visage. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des paiements sur Internet qui sont sécurisés par des systèmes vocaux. La voix est une donnée biométrique très, très importante. Et pour autant, malgré tout, personne n'a accès à sa propre voix. C'est-à-dire que moi, j'aurais accès à ma voix seulement quand j'entendrai l'enregistrement. Sinon, de là où je vous parle, je m'entends parler, mais ça n'est évidemment pas la voix que vous vous entendez. Donc en fait, on n'entend jamais sa propre voix, donc on est séparé, on n'a pas accès à ce qui nous distingue le plus au monde. Et cette espèce de paradoxe fait de la voix humaine quelque chose à la fois d'extrêmement puissant, d'identification et aussi de tempérament. La voix des êtres raconte aussi leur tempérament, leur position, leur rapport au monde. Et en même temps, soi-même, on n'a pas accès à sa voix, ce qui fait qu'on n'a pas accès à ce par lequel on est connu des autres. Et ça, je trouve que c'est aussi le mystère de la voix humaine, et je trouvais que c'était important d'en parler. On peut peut-être ajouter que, alors les voix changent, hein. C'est vrai que les voix changent dans le temps, mais c'est une chose qui s'altère moins que peut-être les visages ou les corps, et certaines personnes gardent des voix qui se sont très peu altérées dans des corps qui, eux, se sont altérés. Et ce qui me fait penser, c'est une image poétique, je trouve très forte, que les corps humains, et d'ailleurs c'est parfois que par cela que la voix est conçue, notamment par les poètes souvent, le corps n'est que la boîte qui renferme une voix. Le corps n'est que l'enveloppe corporelle et finalement périssable d'une voix qui, elle, le serait beaucoup moins. Et ça, je trouve que c'est une donnée qui est très belle. Et par exemple, dans mon prochain livre, l'héroïne est doubleuse, elle fait de la post-synchronisation, c'est-à-dire qu'elle rentre sa voix dans des corps qui ne sont pas les siens, enfin... Tout ça me captive et me fascine énormément. La voix humaine est quelque chose, est un motif que je trouve extrêmement fascinant.
Je pense que pour préparer ce livre, pour l'écrire, vous avez aussi parlé aux spécialistes, aux experts de la voix humaine. Chacun, chacune connaît ce sentiment. On se sent repulsé, attiré, fatigué aussi par une voix. On a des aversions. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça ? C'est purement individuel ?
Je pense que jamais rien n'est complètement purement individuel. Je pense que tout est très socialement construit. Notamment, on pourrait parler de la voix aiguë des femmes. C'est intéressant dans une de ces nouvelles, qui est une nouvelle avec une prise de parole, pour le coup, féministe. C'est l'histoire d'une fille qui veut prendre le micro et faire carrière à la radio. Mais elle a ce qu'elle appelle une petite voix de chiotte, c'est-à-dire une voix aiguë, et on lui dit « ça ne passe pas ». Comme si c'était naturel, en fait, comme si c'était juste individuel. Mais en fait, non. Quand on s'intéresse à la question, c'est d'ailleurs un champ d'investigation assez génial. Les voix des femmes ont été extrêmement discriminées à la radio en France. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est en Allemagne, mais en France, les femmes n'ont pu présenter les nouvelles à la radio que très récemment, jusqu'à il y a quelques années. Pour les actualités, ça ne pouvait pas être vraiment une femme, ou alors, les femmes qui ont fait vraiment carrière à la radio sont des femmes avec des tessitures très basses, tandis que voilà, c'est plutôt les hommes qui présentaient les nouvelles, tandis que la voix masculine, elle est plus basse et elle connote immédiatement la compétence, quelque chose d'assuré. Tandis que la voix aiguë, elle est fragile, on a l'impression qu'elle peut se briser. C'est aussi dans la racine du mot hystérique, c'est-à-dire les voix un peu hystériques, c'est des voix, l'utérus qui remonte dans la gorge. Enfin. Donc il y a eu un peu comme ça des discriminations. Et par exemple, quand Ségolène Royal s'est présentée aux élections, je me souviens, présidentielles en 2007, elle était beaucoup moquée parce qu'elle avait une voix trop aiguë parfois. On sait que Margaret Thatcher, elle a pris un coach vocal pour que sa voix rejoigne. Elle était en plus dans un parti très conservateur, un peu une femme assez isolée. Et elle-même, avec un ethos de pouvoir assez fort, elle a dû quand même baisser sa voix, apprendre à avoir une voix plus basse. Et c'est intéressant de voir que cette voix aiguë, cette voix qu'on n'aime pas, etc., elle est aussi socialement construite. Par ailleurs, quand j'écrivais ça, j'étais beaucoup calée sur des faits scientifiques, en fait, hein, et toujours assez émerveillée, d'ailleurs, de me rendre compte que, finalement, la voix humaine, c'est comme un espèce d'accident de l'évolution. si le larynx n'était pas descendu au niveau de la cinquième vertèbre, on serait peut-être un peu comme les enfants ou comme les grands singes, en fait. On n'aurait pas la voix articulée, etc. Il s'en est fallu de peu qu'on n'ait pas le langage articulé. Voilà, bon, tout ça me passionne.
Oui, de ça, il est question dans le premier livre, hein, enfin, celui qui ouvre le recueil, c'est la nouvelle bivouac. La narratrice se trouve dans le cabinet de son dentiste. Elle voit les restitutions en plâtre des dents.
Le moulage qu'il y a toujours chez les dentistes avec les mâchoires pleines de dents.
Oui. Et elle réfléchit au fait que les dents servent à identifier une vie aussi fiablement que les empreintes génétiques. Elle regarde avec son médecin la photo d'une mâchoire inférieure trouvée sur les rives d'un ancien bras de la Seine. Et devant cette, comme vous dites, mâchoire sans voix, la narratrice se demande comment les hommes à l'époque de la découverte pouvaient avoir parlé. Cette réflexion sur les bouches muettes et fragiles tout au début du livre, est-ce aussi une révérence à l'évolution extraordinaire de la langue humaine?
Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander comment en parlaient les hommes et les femmes de la préhistoire. On sait beaucoup de choses. La préhistoire, en tant que discipline scientifique, est extrêmement riche, mais il y a cette idée de comment ça parlait. Alors, on peut faire beaucoup de recherches, évidemment, la position de la mandibule, l'histoire des dents, etc. Mais au fond, il nous manque quelque chose. Et je trouve que cette absence, ce manque-là, en tout cas, chez moi, il suscite beaucoup d'interrogations. Quand je m'intéressais beaucoup, à un moment donné, à la manière dont les grands singes pouvaient se comporter entre eux, se montrer de l'affection, s'entraider. La question de la coopération dans les groupes, je me disais toujours, mais alors est-ce que ça regarde aussi les sapiens, ce que nous sommes? Enfin, voilà, ça c'est une question qui m'intéresse pas mal. Et il y a toujours une évolution des voix. Et aujourd'hui, je voudrais quand même en dire un mot. C'est pas dans ce recueil, c'est dans mon prochain livre. Mais aujourd'hui, il y a quand même la question du fait qu'avec l'intelligence artificielle, non seulement on peut faire parler des gens qui sont morts, hein, en modélisant et en rentrant dans des machines, évidemment des voix, enfin des thèmes de calcul, etc., qui vont pouvoir générer des voix artificielles extrêmement nombreuses. Mais évidemment, ça regarde aussi vers le fait que la voix, elle est un peu dématérialisée également. Donc en fait, cette évolution de la voix humaine, elle n'est pas finie, ça continue.
On va sauter en arrière un tout petit peu parce que j'ai choisi comme premier extrait de Canoë un passage de la nouvelle, enfin du récit Ruisseau, Il y maille de fer. Gebirgsbach und Ätherrauschen. Il y a deux amis qui se revoient après un bon moment. Zoé travaille à la radio et elle espère qu'on lui offre un poste comme modératrice. Et voilà, les deux se sont rencontrés et je voudrais que vous commenciez à lire à partir de là.
Alors, j'ai changé. Ses yeux remuaient dans les miens comme des poissons d'argent. Prélude terminado, ai-je pensé. J'aurais aimé lui faire une réponse de toile cirée, légère, glissée, tout le monde change, en piquant une olive dans le bol marocain. Mais de fait, Zoé était en face de moi comme un sosie d'elle-même, sans que je sache identifier d'où venait cette dissonance. J'avais justement la sensation de tourner avec fébrilité le disque cranté au flanc d'un transistor pour ne plus entendre la limaille de fer et retrouver la juste fréquence de mon ami. Déstabilisée, je me suis raccrochée à sa manière de fumer, le poignet cassé à la clope qui pend entre le majeur et l'index. De se mordre l'intérieur des joues en signe de perplexité ou de rejeter ses cheveux en arrière. Soulagée de la reconnaître solaire, passionnée et ambitieuse quand elle a évoqué son nouveau poste à la radio où elle espérait prendre l'antenne. Mais un décalage invisible suffisait à désajuster sa présence, à parasiter l'image d'elle formée en moi durant toutes ces années. Et ce n'est que lorsqu'elle a répondu à un appel sur son portable et s'est éloignée en me tournant le dos que j'ai réalisé que Zoé ne parlait plus pareil. Sa voix, Autrement dit, la vibration singulière qu'elle émettait dans l'atmosphère et que j'aurais reconnue comme la sienne parmi des milliers d'autres, sa voix n'était plus dans son corps, mais comme doublée par une autre, à peine différente, mais modifiée. « Ta voix, » lui ai-je dit en me caressant la gorge d'une main machinale, « ta voix, elle a changé. » Zoé s'est redressée. « Tu trouves ?» J'ai hoché la tête et un rictus de victoire est aussitôt apparu autour de sa bouche, semblable à celui d'un joueur de tennis qui vient de remporter un point décisif. « Cool !» Et comme je marquais mon étonnement, elle a précisé « Je ne veux plus de ma voix de chiotte. » Ce que Zoé appelle sa voix de chiotte n'est pas autre chose qu'un timbre clair et vif. Une voix au débit saccadé, pointu, mais capable de s'élever sans stridence, un ruisseau de montagne. Et je l'aime cette voix, c'est la sienne. Quand je pense à Zoé, c'est ce timbre qui revient et, dans le sillage, la nuit où elle avait chanté des standards de folkeuse américaine. Nous campions au cœur de l'Aubrac, les canoës reposaient dans l'herbe, c'était l'été, la tente amplifiait sa chanson tel un patio andalou, et Zoé avait la voix limpide, et le silence entre chaque son était d'une densité de platine. Il semble pourtant que cette voix soit trop aiguë pour devenir une voix radiophonique. Ici, on n'aime pas trop les petites voix sucrées, a-t-on balancé récemment à Zoé, manière de la prévenir que son accès au micro était compromis et qu'elle ferait mieux de revoir ses rêves à la baisse. Un présage qu'elle a entendu comme une incitation à se montrer opiniâtre, à prouver sa valeur et surtout à travailler sa voix afin de la rendre plus grave, plus profonde, plus posée. Plus masculine, tu veux dire ? Ai-je demandé. Moins féminine, en tout cas, m'a-t-elle rétorqué en s'allumant une clope. Zoé est donc partie en quête de sa voix grave, celle qui connote la compétence, l'autorité et l'assurance que l'on refuse à sa voix aiguë. Chaque semaine, elle se rend chez un coach vocal qui lui apprend à baisser sa fréquence, car ce n'est pas évident les voix aiguës, tu sais, elles passent moins bien à la radio, c'est technique, c'est lié à l'oreille humaine, faut penser aux auditeurs. Le coach, un individu hautement qualifié, l'a visiblement confortée dans l'idée que sa voix est, sinon une voix de chiotte, du moins un désavantage naturel, celui que portent les voix de femmes, car plus tu parles aiguë, plus tu es perçue comme fragile, nerveuse, moins résistante. Et à l'inverse, plus la voix est grave, plus celle qui parle est jugée solide, rassurante, digne de confiance. Tu vois ? Je dodelinais de la tête en faisant la moue. Tout cela n'avait précisément rien de naturel à mes yeux. Mais Zoé a conclu que justement, la voix des femmes avait baissé depuis une cinquantaine d'années, depuis qu'elles avaient commencé à rallier les lieux de pouvoir. C'est scientifiquement prouvé. Et comme pour fêter cette mue sociale des voix féminines, cette révolution vocale, nous avons recommandé The White Russian.
Ce texte, pour moi, il est parfait. Très travaillé. J'aime vous écouter. Merci. Parler, bien sûr. Mais quand vous êtes en train d'écrire et de retravailler un texte, est-ce que vous êtes en train de le lire à haute voix, à vous-même ?
Oui. Alors, je le lis à haute voix une fois que j'ai fini la séance d'écriture. Je le teste, je le règle à voix haute, surtout les questions de sonorité et de ponctuation. Plus je pense que ça touche aussi autre chose qui est le fait que quand je lis le texte, j'ai le sentiment qu'il existe en fait. C'est pas seulement sur le plan euphonique, c'est aussi parce qu'une fois que je l'ai lu, je l'ai exprimé, donc il est forcément sorti de moi et il existe. J'aime bien faire des lectures une fois que le livre est vraiment imprimé, parce que je fais exister quelque chose qui est vraiment très achevé. Je clôt le plus souvent ces séances par un temps de lecture à voix haute. Je me relis ce que j'ai pu écrire. Et d'ailleurs, j'avais écrit un livre qui s'appelle Corniche Kennedy sur des adolescents. Il est beaucoup question de la vitesse de langage de l'adolescence et qu'il y a une ellipse des sujets, les phrases sont très rapides, il y a un travail de la vitesse. Quand je le lisais, ça passait très très bien. Quand je le lis, parfois aujourd'hui, je suis un peu essoufflée. Et donc, c'est un matériau, ça me rappelle toujours que la littérature, ça a beau être un livre manufacturé, imprimé, etc., ça reste un matériau très vivant et qui fluctue, qui n'est jamais toujours pareil. Il suffit de relire d'ailleurs pour s'en rendre compte.
Vous avez mentionné tout au début la nouvelle centrale, Mustang, qui est bien placée au centre. Enfin, il y a les autres 7 récits autour. Vous avez dit un jour tel des satellites, et je trouvais ça très bien, cette image. Cette histoire se déroule à Golden, Colorado, dans le Colorado, où la narratrice a déménagé avec son compagnon et leur jeune fils pour une durée limitée. Et la narratrice se sent dépaysée, tout justement parce qu'elle se sent étrangère quand elle se promène dans un paysage urbain qu'elle trouve laid, stérile, faux aussi. Elle a l'impression d'habiter une autre planète, elle le dit une fois. Elle est, contrairement à son compagnon, sensible au fait qu'en fin de compte, à Golden, toute richesse matérielle et les sciences se sont fondées sur la destruction des Indiens des Grandes Plaines. Et cette glorification naïve de Buffalo Bill, qui est évident, qui est enterré dans les collines autour de la ville, parle pour soi. Elle rejette.
C'est la fiction, en fait. Elle est dépaysée parce que Golden, c'est vraiment ces villes au pied des Rocheuses. On est dans un décor que la narratrice rapporte à celle du cinéma américain, des westerns, avec ses grands paysages. Et tout d'un coup, elle est dans l'image, en fait. Elle se dit, mais en fait, tout ressemble un peu à une petite ville de série américaine, etc. Alors, c'est pas tant qu'elle trouve ça laid, mais c'est plutôt, comme vous l'avez dit, qu'elle trouve ça un peu factice. Il y a cette façon qu'on peut avoir de s'adapter à la fiction des lieux sur un mode politique ou métaphysique. Alors, son mari s'est bien adapté. D'ailleurs, sa voix a un peu changé.
Et voilà, c'est le dépaysement vient de cet écart aussi, parce ouais. qu'elle a du mal à s'approprier cette atmosphère, enfin, le lieu, et aussi le fait d'être obligée à parler une autre langue. Elle est sortie de son environnement linguistique. Et c'est une expérience que vous avez fait vous-même. Je voudrais bien que vous lisiez aussi un passage où ça s'explique très bien l'écart qui s'établit, enfin, discrètement entre le couple.
Bien sûr. Alors, il est 2 heures du matin, nous sommes allongés sur le dos, perdus sur un matelas grand comme un continent, et Sam, les yeux ouverts dans l'obscurité, la pupille liquide, me demande ce qui me dépayse ici. « Ta voix, ai-je répondu après un temps de silence. Il ne bronche pas. Ma voix ? Oui. Ma manière de parler, tu veux dire ? Pas seulement le timbre, la tessiture, tout. Mais c'est l'anglais, ça, il a soufflé. C'est le fait de parler dans une langue étrangère. Je me suis redressée sur les coudes, face à un croissant de lune qui étincelait dans la nuit aussi affûté qu'une faucille soviétique, et j'ai secoué la tête. Non, ta voix a changé. » Je ne reconnais plus la voix de Sam. Dès nos retrouvailles à l'aéroport, tandis que l'émotion de nous revoir, d'être réunis pour ce qui s'annonçait comme un nouvel âge de notre vie en commune, ravivait cette gaucherie fiévreuse, ce mélange d'élan et de rétractation pudique propre aux amoureux que la séparation a éprouvé, j'ai perçu une variation si légère, cependant si ténue, que je m'y suis guère arrêtée, puisque cette voix demeurait sienne, sans aucun doute possible, et que nous étions chamboulés par la situation. Mais les jours suivants, la modification impalpable du premier soir s'est précisée. Elle est devenue un grain, infime certes, mais qui me perturbe. À présent, quand Sam, dans mon dos, s'adresse à ceux d'ici, il m'arrive de me retourner pour m'assurer que c'est bien lui qui s'exprime, là, car sa voix converge progressivement vers les leurs. Elle bascule peu à peu dans leur communauté. elle trouve à s'y enchevêtrer, à s'y fondre, comme s'il prenait place dans l'orchestre local. Elle adopte peu à peu leur tonalité, elle épouse leur rythme et leur puissance. Sam parle sensiblement plus fort et plus lentement qu'en France. Je l'observe en douce qui relâche la mâchoire, détend la langue, espace chaque mot et abaisse le voile du palais pour faire résonner ses cavités nasales. Tout cela sans y penser, comme s'il suivait la pente naturelle du terrain où il évolue désormais, réglant sa voix pour se l'approprier et lui appartenir et pour s'y faire entendre. Ce mimétisme vocal ne modifie pas seulement sa parole, il brouille toute sa personne. Des muscles faciaux, que je ne lui connaissais pas, sont apparus sur son visage. Des attitudes nouvelles, des expressions et des gestes, une façon de se tenir dans le monde. Il n'articule plus beaucoup, mais élargit chaque voyelle, ses lèvres remuant plus que sa mâchoire et sa langue toujours au centre. Il a bougé son français de l'intérieur, et même quand nous sommes seuls, même quand il me murmure des choses tendres, je relève des dépôts, des traces de ses autres voix dans la sienne, comme un écho continu. Tel un oiseau change de couleur pour se camoufler dans les branches et leurrer les prédateurs, la voix de Sam se coule maintenant dans celle du Midwest, et cela me dépayse, oui, car elle peut être enrouée, essoufflée, déguisée pour une blague ou troublée par l'émotion, altérée par le sommeil, l'alcool, la colère, étranglée par l'anxiété, empruntée pour approcher un interlocuteur difficile. Elle habite mon oreille depuis si longtemps, cette voix, qu'un mot, deux syllabes à peine, me suffisent pour la détecter sans erreur possible, pour l'isoler parmi des centaines d'autres comme une piste sur la bande de mixage de celle qui m'accompagne, pour la capter de loin. Souvenir d'une liaison radio au beau milieu de la nuit. Lui dans le fond d'un petit cargo en plein tangage dans la mer de Bering, moi couché sous les combles d'un immeuble de la rue Pigalle, le téléphone qui sonne, le combiné glissé sur mon oreille d'une main endormie. Allô ? La friture d'abord, ce lointain qui grésille, et ses premières vibrations comme la membrane de mon tympan, lesquelles touchent bientôt trois osselets, trois miettes de cartilage, quelques milligrammes, et s'amplifie, converti dans la foulée en impulsion électrique que le nerf cochléaire transmet à mon cerveau, vers le gyrus temporal gauche, à l'endroit où l'on situe les micro-régions de la mémoire auditive sensible à certaines intonations de la parole, à son rythme, à son intensité. Une trajectoire sidérale, la flèche de l'amour, avais-je pensé, redressée d'un seul coup dans mon lit étroit, questionnant la distance que cette voie avait parcourue, acheminée jusqu'à moi dans des câbles sous-marins transocéaniques, puis renvoyée par des antennes relais dressées sur les plateaux continentaux, au beau milieu des plaines, au sommet des collines et jusque dans la ville. L'onde électromagnétique invisible mais bien réelle, elle aussi au cœur de ma chambre. Elle m'est plus familière que mon pays, cette voie. Elle est mon paysage. Tout le monde change ici. Il n'y a que toi qui ne changes pas. La voix de Sam a tranché, froide, puis il a basculé sur le flanc et m'a tourné le dos.
J'ai bien aimé ce geste et j'ai aussi aimé voir comment vos mains forment les câbles et tous ces mouvements-là. J'ai comparé la traduction allemande avec l'original français. Vous dites ce mimétisme vocal ne modifie pas seulement sa parole, il brouille toute sa personne. En allemand, ça a été traduit avec un mot qui dit plutôt défigure, elle défigure sa personne, c'est très très fort.
Oui, je trouve que c'est pas mal défigure, parce qu'il y a une question un peu de défiguration dans les voix qui ne sont plus ajustées au visage que l'on connaît. C'est toute la question du doublage en fait. Moi je me souviens avoir vu... Catherine Deneuve, doublée en japonais, elle était presque défigurée, en fait. C'est intéressant.
Vous avez mis en tête du texte, Mustang, un mot de Ursula Le Guin, qui est morte en 2018. Je vais citer le mot. Une feuille, une calebasse, une coquille, un filet, un sac, une écharpe, une hotte, un pot, une boîte. Un contenant, un réceptacle, un récipient. Et vous l'avez cité d'un livre qui s'appelle « La théorie de la fiction panier ». C'est un contre-projet aux histoires de tueurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce mot?
Alors, Ursula Le Guin, c'est une poétesse et un auteur de science-fiction américaine. C'est une femme qui a écrit un texte qui est devenu un texte un peu culte, qui est la théorie de la fiction panier. Dans ce texte, elle explique qu'on a toujours peut-être représenté l'histoire et les grands récits. La fiction, c'est une histoire toujours avec un héros armé d'une lance, etc. Et donc un schème extrêmement masculin. Alors c'est vrai qu'elle a été relue beaucoup et puis c'est devenu un texte assez féministe. C'est un texte important en fait au sein du corpus féministe. Mais ce qui est de génial, c'est qu'elle pense que peut-être qu'un des premiers artefacts créés par l'humanité, c'est une espèce de poche, quoi, comme un panier, mais donc qui peut être une calebasse, un réceptacle, un contenant, une boîte, un récipient. Parce que dans cette histoire des chasseurs-cueilleurs, c'était surtout des cueilleurs, en fait. Et ce qu'elle veut montrer, c'est qu'il y avait l'obligation de créer un récipient qui permettrait de rapporter de quoi se nourrir à l'endroit du camp. Il n'y avait pas que des histoires de grands chasseurs qui allaient tuer des bêtes énormes et montrer leur puissance. Il y avait évidemment toutes ces histoires de cueillettes. Ça m'avait pas mal touchée. Et c'est aussi une poétesse assez merveilleuse. Et j'aimais bien ce texte de la fiction panier parce qu'en fait, cette histoire de canoë, je trouve qu'elle métaphorise aussi un peu cette histoire de panier. Pour moi, les canoës qui circulent dans ce livre, c'est parfois juste une image, un mot, etc. Mais pour moi, le canoë représente cette espèce de récipient qui porte des messages, finalement, d'un texte à l'autre. C'est comme un contenant, un panier qui flotte. Et dans ce panier qui flotte, voilà, il y a des récits. Et je trouvais ça assez beau. D'ailleurs, finalement, ça a donné le nom du recueil, c'est-à-dire le fait de me figurer les canoës. Alors déjà, c'est un objet que j'aime beaucoup, avec lequel moi, j'ai ma petite histoire aussi. C'est très souple, c'est très gracieux, c'est rapide. Mais surtout, ça a été inventé, enfin, le modèle inventé dans les régions des Grands Lacs en Ontario, c'est-à-dire un peu sur la frontière, je parle l'Ontario, mais aussi la région des Grands Lacs. Finalement, se déplacer était plus facile en canoë, étant donné la complexité du réseau hydrographique. Et c'est pour ça que les autochtones ont mis au point cet instrument extraordinaire qui leur permettait d'être en contact, d'être en lien, d'établir tout un réseau entre eux, entre les différents camps, et aussi de transporter des histoires, des nouvelles, etc. Et les canoës, il y a cette idée d'une bouche, en fait, qui résonne un peu à l'intérieur. Et je trouvais que c'était un mot qui m'intéressait, et c'est venu comme titre de ce livre, aussi parce que quand j'ai été au Canada, je me suis prise de passion pour un canoë indien que j'ai ramené chez moi en France. Donc ça a été un truc... Je me souviens de la tête de mon mari et de mes enfants quand ils ont vu le paquet énorme. C'était un peu une espèce de folie. Mais c'est vrai que c'est un objet qui signifie beaucoup de choses pour moi. Et aussi en termes sonores, c'est un peu cette bouche qui contenait tous les récits du Nouveau Monde. Enfin, quand c'est arrivé, il est suspendu chez moi dans l'appartement à Paris. C'est un peu dingo. Et l'avoir ramené, c'était... comme faire venir en fait ces voix chez moi, quoi. J'ai bien aimé cette histoire de canoë. Et après, quand j'ai lu Ursula Le Guin, et c'est, voilà, tout ce qu'elle développe dans cette théorie de la fiction panier, c'est que ces paniers sont évidemment des outils, des instruments pour rapporter des graines, des baies, tout ce qui pouvait, des feuilles, enfin, toute la cueillette, tout ce que l'on récoltait, mais évidemment rapporter... les récits, les bavardages, participent de la formation de la grande fiction qui aujourd'hui est la littérature, en fait, d'une certaine manière.
L'image du canoë, on le trouve facilement, il est matériel ou immatériel, il y a d'autres images qui s'enchevêtrent en quelque sorte dans vos récits, comme par exemple The Golden Colorado. C'est une ville d'orpaillage. On s'approche maintenant de l'univers des sœurs Klang. Vous dites qu'ils pistent les voies comme l'or des rivières, sans foi ni loi. Donc avec l'or dans les rivières, il y a le ruisseau et la limaille de fer.
Tous les 8 textes, en fait, sont reliés par des motifs communs. Donc il y a l'or des rivières, il y a la question de la fluidité de l'eau. Hein, l'eau est présente dans tous les textes, y compris quand les filles font du camping en aubrac, etc., dans la nouvelle dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Si vous voulez, c'est un livre, ça n'a pas été... Je vais prendre des histoires et les mettre les unes à côté des autres, elles n'ont rien à voir, mais j'en ai bien des trucs dans mes tiroirs. En fait, le livre s'est conçu en une fois, et évidemment... Ce qui m'intéressait, c'était d'établir des interférences, des connexions, que chaque texte parle aux autres. Ça, c'était pour moi intéressant de relier ces textes entre eux par des motifs. Alors, il y a cet enfant aux yeux chocolat noir qu'on voit réapparaître. Il y a les grands singes. C'était vraiment... et la question de... comportement, enfin de la façon dont il... surtout, j'étais impressionnée par toutes les études... des éthologues sur la coopération. J'avoue que c'est quelque chose, j'étais quand même assez sidérée. Et leur rapport aux morts aussi, hein, évidemment, l'aspect émotionnel. Enfin, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup. Donc la figure de Jane Goodall, elle revient dans plusieurs textes. Et comme ça, il y avait l'idée que c'était comme un réseau. Ce livre, il fonctionne comme un réseau de voix. Il y a un enchevêtrement. Et puis des petits motifs qui font écho les uns aux autres et qu'une lecture, à la fois, on peut lire évidemment tout... chaque texte sans lire les autres, mais quand on les lit ensemble, on repère aussi bien la question des interférences et des échos. Et voilà, pour moi, c'était un geste littéraire particulier qui allait contre aussi la dislocation que l'on vivait à ce moment-là, c'est-à-dire que la pandémie avait apporté dans la dislocation du temps, la dislocation des espaces, la dislocation des familles. Et j'avais envie un peu au contraire, de refaire connexion, refaire réseau. Et c'est un peu le geste littéraire dans ce livre.
Dans le récit Nevermore, on a affaire avec les sœurs Klang, qu'on a mentionné tout à l'heure, la Inge und Sylvie Klang. Ce sont deux noms, deux sœurs, deux noms allemands. Elle peut paraître banale, ma question. C'est passionné, folle et obsédée du son juste. Pourquoi est-ce que ce sont des Allemandes?
Ah, parce que la langue allemande, que moi j'ai pu... apprendre un peu au collège, mais en fait qui est une langue extrêmement sonore, et puis c'est aussi toute la question de l'opéra, et je trouvais, et Klang, ça veut dire évidemment le son. Pour moi, il y a aussi une excellence allemande dans la question des enregistrements. Un enregistrement en musique classique, c'est souvent un label allemand, Deutsche Grammophon. Enfin, c'était un peu, pour moi, deux femmes qui sont des chasseuses de voix. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une fille qui est castée, on va dire, choisie par ses deux sœurs pour enregistrer le poème d'Edgar Poe, Nevermore, qui est aussi l'histoire d'un corbeau qui parle. Donc il y a beaucoup d'oiseaux aussi dispersés dans ces pages, et un corbeau qui parle comme un homme. Or, je fais une toute petite parenthèse, seuls les oiseaux partagent avec les hommes la possibilité de faire vibrer les cordes vocales. Les oiseaux, ils ont ce qu'on appelle un syrinx. Les humains, ce sont un larynx, mais ils n'ont pas la voix articulée, quoi que certains perroquets pourraient l'avoir. Mais il y avait quelque chose qui m'intéressait dans l'idée de l'oiseau qui parle. Donc c'est un poème qui est très connu d'Edgar Poe, qui est un poème que j'adore, qui est un poème assez angoissant, très nocturne et assez magnifique, de l'oiseau qui est là à minuit et qui parle d'une femme morte, etc. Et je trouve ce poème très beau. Et ces deux femmes battent la campagne, elles guettent des voix pour trouver des voix, et ça, hop, c'est pas mal, hop, elles les prennent et elles les emmènent dans le studio et elles se retrouvent à essayer de dire ce poème. Voilà, ce qui concerne l'obsession du son juste, je pense que j'ai choisi de faire de ces femmes des femmes qui portent des noms allemands, parce que pour moi, c'est très lié à la phrase, hein, la façon dont les Allemands ont ces phrases avec toujours le verbe à la fin, c'est-à-dire que cette action, tous les éléments de la phrase sont donnés, et puis à la fin, on sait, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est toujours quelque chose qui me fascine pas mal.
Je veux dire que cette recherche des sœurs, de la seule expression qui leur plaise. Elles sont en train d'établir un catalogue. Il y a des centaines de textes. Elles cherchent la voix qui convient à ce texte.
Une seule voix.
Oui, ça, c'est fou. C'est erroné. Elles ne pensent pas qu'elles vont échouer. Moi, je pense que c'est la pure subjectivité.
Oui. Ce qu'elles font, c'est qu'elles se disent, ce sont des femmes qui établissent une bibliothèque de livres audio exceptionnels, parce qu'elles pensent qu'une voix s'accorde à un texte, et qu'un texte ne peut pas être dit par 10 voix différentes, mais qu'en fait, il faut trouver l'appariement, en fait, qui soit le plus juste possible. Bon, c'est peut-être aussi le travail des cinéastes, hein, de chercher le corps et le visage le plus juste pour incarner une figure, un personnage. Et elles travaillent vraiment comme ça. Et elles sont très obsessionnelles et très fortes aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont un catalogue particulier où elles essayent de donner des noms aux voix, de les répertorier. Alors, ce n'est pas du tout mezzo, soprano, alto, etc. Elles décrivent la voix. Donc, et la voix de la narratrice, ça sera Canoë clair sur Océan sombre. Canoë clair sur Océan sombre, elles notent ça sur leur carnet. Et en fait, c'est comme ça qu'elles appellent la fille dans le studio. Et en fait, les gens sont réductibles à leur voix. Et ces voix sont capables de dire un seul texte le mieux possible. C'est vraiment cette quête de la note juste, de la voix juste. Bon, c'est une fiction, mais pour moi, elle fait sens aussi dans mon imaginaire. Enfin, c'est la question de la voix juste, elle est tout le temps là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être juste, c'est-à-dire aussi ajusté à son sujet, à son objet, à sa démarche. C'est tout le temps là, cette question, et c'est évidemment l'obsession, je pense, des écrivains. Non pas l'exactitude. L'exactitude, c'est... Ça ne sera jamais la justesse. La justesse, c'est quelque chose pour moi qui est plus métaphysique et qui est aussi plus complexe à attraper.
Lors de la discussion, Marie Jacquier a fait remarquer que parfois les personnages ne contrôlent plus leur voix et que des mots leur échappaient. On a aussi évoqué le potentiel grotesque de l'histoire Mustang. Le fait qu'une narratrice qui se sent mal à l'aise aux États-Unis cache justement une arme sous ses fesses paraît bien absurde.
C'est la fiction, en fait. C'est la force de la fiction. Cette fille qui débarque aux États-Unis, elle a quand même que les westerns, les séries. Je disais tout à l'heure, elle se croit un peu, elle se voit dans l'image. Elle dit « maintenant, je suis dans l'image ». Elle accompagne cette monitrice d'auto-école chez elle. C'est ce qu'on appelle c'est comme un camp de caravane, en fait, hein, comme il y a beaucoup aux États-Unis. Et en fait, de mobile home, elle commence à rentrer un peu dans cette ambiance américaine. Elle dit, je n'ai pas été si étonnée, au fond, de découvrir un flingue dans la boîte à gants. Alors après, le revolver, c'est une image, pour moi en tout cas, qui est un des fétiches de l'Amérique. Hein, ça résorbe beaucoup de mon imaginaire américain qui marche avec cette histoire qui est liée au cinéma et à la fiction, mais aussi avec la violence américaine. En fait, la violence, la diffusion des armes, etc. Et le fait que c'est pour moi un objet qui est comme un fétiche, comme un symbole, en fait. Et alors, c'est très lourd. Elle sait pas quoi en faire. Et elle va s'asseoir dessus, réellement. Là, il y a quand même... ça dérape. Et alors, c'est aussi un livre où les voix dérapent. Et comme vous l'avez dit, elles sortent. Dans Nevermore, elle n'arrive pas à dire le poème. On pousse un cri à un moment donné. Il faut crier. Alors, le cri, c'est intéressant parce que pour le coup, le cri, c'est ce qui est réprimé socialement. Vous sortez dans la rue, vous criez, ça ne va pas. On n'a pas le droit de crier, sauf dans des manifestations, où là, il y a une licence pour crier, où certains soirs, on se dit, le vendredi soir, dans les quartiers étudiants, on peut crier. Mais sinon, il n'y a pas de licence. Le cri, c'est immédiatement presque la crise. Enfin, il y a quelque chose qui est en crise. Et c'est intéressant, le cri, parce que, pour le coup, c'est aussi ce qui sort. C'est le cri de colère, c'est un cri qu'on ne maîtrise pas. Et c'est la part immaîtrisée de cette question de la voix, et notamment dans le cri, c'est peut-être notre part animale. C'est la part animale du sapiens qui est toujours là et qui fait que, voilà, il crie. Il crie comme un animal, en fait. Et c'est vrai que les voix, à la fois, elles se détachent et à la fois, elles nous incarnent. Et alors, il y a une question qui n'est pas du tout traitée dans le livre, mais qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la voix de l'acteur. Parce que pour le coup, l'acteur peut pas forcément prendre toutes les voix, mais moduler sa voix. Et c'est lui qui peut suggérer l'amour ou la perversité ou la menace ou la tendresse. Enfin, alors ça, malgré tout, c'est toujours une voix qu'on reconnaît, surtout les voix des acteurs ou des chanteurs, on les reconnaît, on les connaît. Le chant non plus n'est pas, parce que le chant, c'était quand même une question qui était trop compliquée pour l'aborder dans ce livre, parce que le chant, pour moi, c'est complètement un autre continent. Chanter, c'est un autre usage de la voix. Et
il y a des passages où,
oui, ça chante un peu.
De Mustang, toute seule, ouais, dans la voiture, en écoutant la radio. Et puis, très très beau, le jeune frère Beg, ouais, qui fait un discours sa sœur pour la féliciter pour son bac, et puis il sait qu'elle va partir. Et à la fin de cette nouvelle, vous décrivez que de temps en temps, il disparaît, il quitte la maison, il va chanter seul.
Oui, parce qu'il bégue quand il parle, mais il chante comme un ange. C'est beau, ça. C'est l'idée que c'est un totalement autre registre et autre usage de la voix. Et que dans un contexte familial, social, il n'arrive pas à dire à sa sœur qu'elle va partir et qu'il l'aime et qu'il est... Il n'arrive pas à dire sa phrase. Mais en revanche, quand il est seul, il chante, en fait. Donc, oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vraiment l'idée qu'effectivement, la voix, elle peut se détacher de soi. On peut ne pas la maîtriser, on peut ne pas la contrôler. Mais pour autant, il reste quand même le fait qu'on reconnaît les voix, quoi. On reconnaît les êtres à leur voix. C'est même impressionnant, cette mémoire que l'on a des voix, des êtres, je trouve.
Et c'était la 31e édition de Litteramour avec Sigrid Brinkmann. J'espère vous retrouver bientôt et d'ici là, vous souhaite de bonnes lectures.